Unitaire, au cœur de l'action des défenseurs de l'environnement. Une émission de Michel Forst, rapporteur spécial des Nations Unies sur les défenseurs de l'environnement, et Magali Lafourcade, magistrate, secrétaire générale de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, produite par Amicus Radio.
Bonjour à toutes et tous.
Bonjour.
Dans cet épisode, nous aborderons la situation des défenseurs en Europe. Nous évoquerons aussi la nature des menaces auxquelles ils sont confrontés et les protections qui devraient être mises en place par les institutions de l'Union européenne comme par les organes du Conseil de l'Europe. Le continent européen est généralement perçu comme celui de la démocratie triomphante, de l'état de droit et de l'attachement aux droits humains. Les institutions de l'Union européenne vont être soumises à l'exercice démocratique puisque 720 eurodéputés issus de 27 États vont être élus au Parlement européen, s'en suivront la composition de groupes politiques et in fine l'installation d'une nouvelle commission européenne. Si on parle de la grande Europe, celle du Conseil de l'Europe, elle a fait face à des perturbations qui ont conduit à l'exclusion de la Russie justement sur le terrain de l'état de droit. Cet épisode vous propose de parler d'Europe du point de vue de la protection des défenseurs de l'environnement. Quels sont les enjeux pour les défenseurs de l'environnement? Que peuvent-ils attendre des institutions de l'Union européenne? Et plus largement, quelles protections les organes du Conseil de l'Europe, cet espace composé de 46 États, peuvent-ils leur apporter? Michel Forst tente de nous apporter quelques pistes dans cet épisode. Michel, quel constat dresses-tu quant aux menaces auxquelles sont confrontés les défenseurs de l'environnement en Europe?
Alors d'abord, il faut souligner que ce n'est pas des constats que je dresse personnellement. L'une des méthodes de travail que j'applique depuis maintenant des années, c'est d'abord de consulter les défenseurs, et donc j'organise des consultations sur le continent européen, dans lequel j'invite des défenseurs, généralement ceux qui vivent loin des capitales, les plus menacés, à venir me rencontrer pendant 2 jours et m'expliquer au fond les menaces auxquelles ils sont confrontés pour que je puisse en fait faire un bilan et ensuite dire aux États, voilà ce que j'ai entendu de la part des défenseurs, et voilà pourquoi vous devriez être plus actifs pour leur protection. Et donc ce que j'entends de la part des défenseurs en Europe, c'est que malheureusement le continent européen est loin d'être épargné par les attaques dont sont victimes les défenseurs dans le monde entier. Et alors que beaucoup pensaient que l'Union européenne ou que l'Europe dans son ensemble était un territoire un peu préservé au fond, que les défenseurs c'était plutôt quelque chose pour l'Amérique latine, l'Afrique, l'Asie, eh bien on s'aperçoit après consultation des défenseurs que eux vivent des menaces peut-être d'une autre nature, mais en tout cas des menaces graves dans un grand nombre de pays de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe plus généralement.
Et par comparaison aux autres continents, qu'est-ce que tu observes ?
Alors très clairement, si on écoute les défenseurs, si on lit également les rapports publiés par les grandes organisations comme Global Witness, on voit bien que les menaces sont plus sévères en Afrique, en Amérique latine, notamment les meurtres de défenseurs qui sont là-bas légion en fait. Donc tous les jours, tous les 2 jours, on a un défenseur de l'environnement qui est assassiné selon Global Witness. Alors en Europe, sur le continent européen, les choses sont plus subtiles. On a certainement des menaces très claires qui viennent à la fois de la part des États, des forces de sécurité, des restrictions aux ONG environnementales, mais aux ONG en général, des arrestations arbitraires de défenseurs, des invitations à la police, et puis la multiplication de lois qui viennent, année après année, rendre plus fragile la situation des défenseurs sur le continent européen.
Et pour les femmes défenseurs, est-ce que tu observes des différences ?
Lorsque j'organise des consultations avec les femmes dans l'espace européen, j'entends à peu près la même chose que ce que disent les femmes dans mes consultations en Afrique, en Amérique latine et en Asie, au fond. Alors à chacune de mes consultations, j'organise également une demi-journée spéciale dans laquelle j'invite les hommes à quitter la pièce pour rester uniquement avec les femmes, parce que quand les hommes ne sont pas dans la pièce, les femmes ont une parole un peu différente. Et la première commence timidement à dire ce qu'elle vit, et ensuite ça libère la parole des autres, et on entend beaucoup de témoignages, effectivement, non seulement de menaces sexo-spécifiques auxquelles elles sont confrontées dans la vie quotidienne, mais elles me montrent également des éléments concrets de menaces sur leur téléphone ou sur des papiers qu'elles ont apportés pour la réunion.
Des menaces de viol, des menaces sur les enfants.
Des menaces sur les enfants, des menaces de viol qui sont vraiment terrifiantes pour les femmes quand elles les racontent. Et on voit que les autres sont attentives et elles disent « mais c'est moi, c'est pareil, dans mon pays c'est la même chose ». Donc c'est vraiment quelque chose de particulier. Et puis en même temps, elles ont toujours une force de proposition en disant « voilà ce que vous devriez vous faire, vous rapporteurs, et peut-être vous ne le faites pas assez pour nous ». Et donc elles font suggestions, des propositions que je prends en compte ensuite dans le développement de mon mandat.
Alors, quelle protection as-tu vu l'Union européenne mettre en place à travers ses différentes institutions ? Quelles ont été les avancées de ces dernières années ?
Alors, le paradoxe, c'est qu'en fait, il y a deux Europes au fond. Hein. Mm. Il y a l'Europe de l'Union européenne, et l'Union européenne dépense des centaines de millions d'euros chaque année pour protéger les défenseurs, mais essentiellement en dehors de l'Union européenne. Mm. En Afrique, en Amérique latine, des mécanismes sont mis en place, développés, avec des financements très importants. Les délégations de l'Union européenne ont également des financements très importants qui permettent, par exemple, de relocaliser un défenseur en danger, donc de le mettre dans un autre pays. Et il y a l'autre Europe, à laquelle, malheureusement, les défenseurs sont confrontés, celle de l'Union européenne. Et les défenseurs de l'Union européenne se plaignent du fait que l'Union européenne ne fait rien pour eux et que tout ce qui est développé sur le plan international ne s'applique pas à l'heure actuelle aux défenseurs au sein de l'Union européenne.
Donc les financements qu'allouent les institutions de l'Union européenne sont fléchés vers les politiques du voisinage, voire même pour des pays très loin. Mais il n'y a pas de financement dédié, d'instruments dédiés pour pouvoir protéger les défenseurs des pays de l'Union européenne.
Voilà, c'est le constat qu'on fait à l'heure actuelle, alors qui a amené bien évidemment les grandes organisations gouvernementales à réagir. Donc il y a à l'heure actuelle des discussions auxquelles je participe à Bruxelles pour voir de quelle manière on pourrait tenter de mettre en place un mécanisme européen, propre à l'Union européenne, pour prendre en compte ce que nous disent les militants dans l'Union européenne, c'est que chez eux aussi, chez nous aussi en Europe, la situation est loin d'être aussi claire que l'Union européenne voudrait le faire croire. Et donc il y a à l'heure actuelle des mesures qui vont être mises en place. Ça prend du temps. Il y a des résistances très fortes de la part de ces pays illibéraux de l'Union européenne, mm-hmm. qui protestent contre l'ingérence de l'Union européenne.
Comme la Hongrie,
comme d'autres pays également à l'heure actuelle. Et donc, on voit bien que c'est un combat qui est loin d'être mené, mais en tout cas qu'on mène à l'heure actuelle avec une détermination et le soutien d'un grand nombre de parlementaires de l'Union européenne qui voient bien l'intérêt de mieux protéger les défenseurs au sein de l'Union européenne pour être au fond cohérent. C'est toujours cette fameuse histoire de l'impératif de cohérence. Soyons cohérents en interne comme on l'est à l'extérieur. Donc, c'est ça qui est en jeu.
Oui, donc cet impératif qui dit qu'il faut appliquer à soi-même ce qu'on préconise à l'extérieur des frontières. Et donc, tu as été auditionné par le Parlement européen. Comment ça s'est passé ?
Alors, j'ai été auditionné donc, à plusieurs reprises. C'est le constat que j'ai dressé avec eux. Et je l'ai fait en prenant en compte et en prenant même des propos qui ont été tenus par des défenseurs qui racontent comment ils ont été victimes de menaces. Ils sont à l'heure actuelle victimes de menaces dans les pays de l'Union européenne. On y reviendra peut-être un peu plus tard pour parler des menaces de défenseurs de l'environnement. Mais j'ajoute également que l'Europe, c'est aussi celle du Conseil de l'Europe, où là, les financements de l'Union européenne s'appliquent pour les pays qui sont du Conseil de l'Europe. Et là, on voit bien qu'à l'heure actuelle, même avec ces financements européens, la situation des défenseurs dans le cadre du Conseil de l'Europe est loin d'être rose. J'ai fait récemment des consultations, par exemple, en Asie centrale ou bien dans les Balkans, avec des défenseurs de pays qui me racontent des menaces quotidiennes. Et encore aujourd'hui, avec mon équipe, on avait une réunion pour traiter plusieurs cas de défenseurs qui ont fait appel au mandat pour les protéger.
Et donc, dans le cadre du Conseil de l'Europe, est-ce que les organes du Conseil de l'Europe, je pense au commissaire pour les droits de l'homme, je pense à différents organes de suivi des conventions du Conseil de l'Europe, est-ce qu'ils ont mis en place au moins une politique ou des instruments ou des recommandations pour être plus attentifs à la situation des défenseurs ?
Alors au sein du Conseil de l'Europe, il y a non seulement des discussions qui ont eu lieu depuis des années avec toutes les institutions du Conseil de l'Europe, mais des mesures ont été prises à l'heure actuelle. Il y a par exemple un rapporteur spécial de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, qui est un parlementaire qui n'a pas un pouvoir énorme, mais il est investi en fait d'une mission de la part de l'Assemblée parlementaire qui lui permet d'intervenir
sur les cas de défenseurs de l'environnement,
en général, les défenseurs en général, mais encore une fois, les défenseurs de l'environnement sont des défenseurs parmi d'autres, donc il intervient pour toute catégorie de défenseurs. Et puis il y a également donc le commissaire actuel au droit de l'homme du Conseil de l'Europe, qui lui a carrément un mandat spécifique pour intervenir dans des cas individuels, pour approcher les États, pour parler dans les cas où les défenseurs de l'environnement ou défenseurs en général sont menacés. Et l'ancienne commissaire aux droits de l'homme, Dunia, le faisait très bien, et son successeur commence maintenant à le faire avec engagement. Et il y a également un mécanisme très spécifique au sein du Conseil de l'Europe sur les représailles, qui est là et placé auprès du secrétaire général du Conseil de l'Europe, à l'heure actuelle la secrétaire générale, qui permet d'intervenir dans des missions de bons offices quand des défenseurs sont menacés par les États pour avoir parlé, par exemple, à un des organes du Conseil de l'Europe, comme par exemple les CRIG ou la Commission de Venise. Okay. Et dès lors que ces défenseurs sont menacés, appelés par la police, alors la secrétaire générale peut intervenir. C'est confidentiel, mais c'est efficace, ça marche. Pas à tous les coups, mais ça marche assez bien.
Donc on voit encore une fois qu'il y a une constellation de mécanismes qui se mettent en place, qui se parlent de mieux en mieux, puisque donc tu as déjà engagé la discussion avec le commissaire et l'ancienne commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe. Je rappelle que l'ECRI, c'est la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance, et on sait bien que donc l'enjeu des représailles des personnes qui parlent à ces organes-là, qui exercent un contrôle sur la façon dont les États s'acquittent de leurs obligations, est un enjeu fondamental pour pouvoir avoir une parole fiable, une parole indépendante, et pour pouvoir bien renseigner ces organes.
Et j'ajoute que j'organise au mois d'octobre prochain ce qu'on appelle la réunion intermécanisme à Paris, à laquelle j'invite donc tous les rapporteurs spéciaux des Nations Unies, du Conseil de l'Europe, de l'OSCE, de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et de la Commission interaméricaine à venir avec moi passer 2 jours où on va se focaliser sur la prévention et la protection des défenseurs de l'environnement. Comment ensemble on peut être plus fort, plus visible sur la question de l'environnement et des militants du climat qui à l'heure actuelle sont les plus menacés dans le monde.
Donc c'est une manière d'avoir une intrication des mandats pour avoir une meilleure efficacité et que surtout j'imagine qu'il arrive aussi que certaines situations très notables de défenseurs soient suivies par plusieurs mécanismes. Et donc, à ce moment-là, vous avez un moyen de faire ensemble ou d'éviter de doublonner. Comment ça se passe ?
C'est ça, en fait. L'idée, c'est de renforcer la complémentarité, d'éviter de doublonner. C'est-à-dire quand l'un prend une initiative, il consulte les autres pour savoir s'ils veulent se joindre à l'initiative ou préfère la faire tout seul, et donc d'être plus fort, et surtout de développer une stratégie pluriannuelle dans laquelle la défense de l'environnement seront une priorité pour tous les rapporteurs, parce qu'on voit bien à l'heure actuelle que sur le climat, sur la biodiversité, sur l'environnement, en fait, ceux qui sont les plus menacés, c'est toujours les mêmes personnes, les défenseurs de l'environnement au sens large du terme.
Et donc là, cette idée d'en faire une priorité, donc d'en faire une politique, en fait, hein, de protection, c'est une idée qui est déjà acquise ou qui est en discussion ?
Non, le thème a déjà été fixé, donc je l'ai proposé, ça a été accepté par mes collègues, et donc ça va être le thème de 2 jours de discussion pour harmoniser nos pratiques, nos méthodes de travail et voir de quelle manière on peut être plus fort. Et donc on a invité également quelques grandes ONG internationales à venir nous rejoindre pour la deuxième partie du travail, pour également partager avec eux nos constats, nos propositions et écouter encore une fois ce qu'elles et eux ont à nous dire sur la manière dont eux perçoivent la protection des défenseurs de l'environnement.
Alors tout à l'heure, tu expliquais, pour poser les constats, que les menaces auxquelles sont confrontés les défenseurs sont souvent un peu subtiles, un peu sibyllines, c'est-à-dire qu'en fait, les États essayent de déqualifier ces personnes avant tout, de ne pas leur reconnaître le statut de défenseur. Comment, face à toutes ces initiatives de rendre plus cohérent, mieux articuler les différentes possibilités pour avoir une protection, comment les États réagissent ? J'imagine que face aux principes, ils sont d'accord, mais dans les cas individuels, quels sont les obstacles que tu rencontres à l'échelle européenne quand tu engages la discussion avec les États pour faire reconnaître à tel ou tel individu qui demande protection la reconnaissance du statut de défenseur ?
Alors, on est confronté aux problématiques même de l'Union européenne, en fait, qui fait que certaines décisions sont prises par consensus, et donc avec un accord d'unanimité de tous les États membres. Et notamment, c'est les questions d'État de droit qui sont les plus compliquées, parce que chacun revendique d'être maître chez soi, et donc de refus de l'ingérence de la part de l'Union européenne, des mécanismes de l'Union européenne, ou d'autres États. Donc c'est une discussion assez compliquée à l'heure actuelle. Et puis on a, comme toujours, 2 groupes d'États, les États qui sont alliés à la cause et qui sont partants, qui sont un peu toujours les mêmes. Les États affinitaires qui sont moteurs en la matière. Sur la protection des défenseurs, c'est à l'heure actuelle l'Irlande qui est moteur avec l'Autriche, d'autres pays de l'Union européenne également. Et puis on a toujours les mêmes États qui en fait sont méfiants vis-à-vis de toute initiative qui pourrait être prise dans le domaine de la justice ou de l'état de droit et donc de la protection en général. Néanmoins, je crois que même si on n'a pas l'unanimité à l'heure actuelle, et même si on n'aura peut-être jamais l'unanimité, je pense que l'Union européenne est capable à l'heure actuelle de développer en tout cas des mécanismes qui permettraient de faire un peu mieux et d'améliorer en tout cas la prise de conscience conscience de la nécessité pour tout le monde de mieux anticiper sur les menaces dont sont victimes les défenseurs de l'environnement.
Et alors justement, quelles seraient les évolutions que tu préconiserais pour mieux protéger les défenseurs, que ce soit au niveau de l'Union européenne ou du Conseil de l'Europe ?
Alors il y a des initiatives qui sont à l'heure actuelle, donc je l'ai expliqué, en cours d'élaboration. Il faut aller plus loin. L'une des premières préoccupations qu'on voit apparaître, et qui en fait c'est la parole des défenseurs eux-mêmes qui nous le dit en fait, hein, c'est que la participation aux grandes discussions dans les enceintes internationales n'est pas à l'heure actuelle garantie aux défenseurs. On le voit dans ces grandes enceintes comme les COP, la COP climat, qui aura lieu encore une fois cette année dans un pays compliqué, l'Azerbaïdjan, qui n'est pas connu pour être un pays particulièrement protecteur des défenseurs. J'ajoute qu'à l'heure actuelle, il y a des menaces très fortes qui pèsent sur les défenseurs de l'environnement en Azerbaïdjan, donc on y reviendra. La COP biodiversité, qui est vraiment là pour traiter des grandes questions de biodiversité. Et donc les défenseurs me disent ou nous disent à l'heure actuelle, ils décident à Bakou, ils décident en Colombie pour nous et on n'est pas invité à s'asseoir à la table. Donc on a évidemment nos propres intérêts à défendre, on a des choses à dire, des propositions à faire, des propositions de rédaction de textes visant à mieux assurer la participation. Nous ne sommes pas invités au COP non plus à participer, ni même au retour à discuter du document qui a été adopté. Donc il y a un vrai problème de participation dans l'espace public international de ces grandes décisions. Donc des grandes décisions sont à l'heure actuelle en cours de discussion. Il y a une initiative qui a été lancée par un groupe d'organisations gouvernementales dont je fais partie, je ne suis pas une ONG, mais en tout cas je soutiens l'initiative, qui à l'heure actuelle est le soutien de quelques pays de l'Union européenne, qui vise à créer un réseau mondial de pays qui s'engagerait à approcher les réunions internationales de manière très différente, notamment les COP, avec une approche plus inclusive, plus participative, et donc s'engagerait par exemple à inviter des populations autochtones ou des défenseurs menacés à faire partie de leur délégation, et pas uniquement formellement à être dans la délégation à ces grandes réunions internationales, mais également à avoir un droit de parole. C'est-à-dire que lorsque les textes sont discutés, eh bien que chaque jour, on puisse retourner vers les défenseurs en disant voilà ce qui a été discuté, quel est votre point de vue, souhaitez-vous qu'on aille un peu plus loin, est-ce qu'il y a des mots, des phrases qui vous fâchent, comment on pourrait surmonter les obstacles. C'est ça la participation. Et donc, à l'heure actuelle, on a le soutien de quelques pays européens qui, en fait, ont compris l'initiative internationale.
Quels sont les enjeux, de ton point de vue, des élections au Parlement européen pour les défenseurs ? Et puis derrière, on sait bien que le Parlement, c'est le début des étapes. Il y a la constitution après des groupes politiques. Et puis, enfin, il y a l'installation de la nouvelle Commission européenne, donc le gouvernement, si on peut dire, de l'Union. Quels sont les enjeux de ce moment démocratique particulier que nous sommes en train de vivre en 2024 ?
Pour moi, je vois deux grands domaines. Qui en fait pour aussi fonder le choix de celles et ceux qui veulent avoir un vote utile au Parlement européen, sans indiquer de vote en direction d'un parti politique. Mais la principale question, ou les deux principales questions pour moi, c'est la question de l'état de droit. Trouver des alliés dans la future Commission européenne pour faire en sorte que l'état de droit soit renforcé, mieux protégé, et que les initiatives prises par quelques États à l'heure actuelle pour essayer de limiter l'action des ONG sur le plan national, eh bien, soit contrebalancée par une forte conviction de la part des futurs députés de l'Union européenne, et que le Conseil de l'Union européenne, c'est-à-dire la réunion des États partis, mais aussi la Commission européenne, c'est-à-dire le bras armé en fait de l'Union européenne, soit plus active, plus attentive à la question de l'état de droit. Et puis le deuxième élément, on voit partout, c'est la question du climat. Donc, et on voit à l'heure actuelle le poids des lobbies sur le plan international.
Et le détricotage du Green Deal.
Le détricotage du Green Deal. Voilà, on voit le poids de l'industrie pétrolière et du gaz, le poids de l'industrie pharmaceutique, chimique. Et on voit à l'heure actuelle effectivement que ces grandes menaces qui pèsent à l'heure actuelle sur la planète ne sont pas assez prises en compte. Donc j'espère effectivement que la nouvelle composition du Parlement européen, puis ensuite de la Commission, pourra refléter ces deux grandes priorités, l'état de droit et l'environnement de la planète, le futur de la planète. Biodiversité, environnement, climat, droits humains.
Merci beaucoup. Ce que je retiens de cet échange avec Michel Faure, c'est que d'abord, il y a une méthode qu'il a mise en place, celle des consultations, qui permet de recueillir la parole des défenseurs, de pouvoir bien identifier les menaces. Et c'est ça qui lui permet, après, d'être le porte-voix des défenseurs pour pouvoir révéler que même dans le continent européen, les défenseurs de l'environnement sont confrontés à des menaces qui sont peut-être un peu moins violentes que dans d'autres continents, mais qui nuisent énormément à leur action et à la pérennité de leur lutte. Face à ces menaces, à cette restriction de l'espace civique, les deux Europes, celle de l'Union européenne et celle du Conseil de l'Europe, se sont mobilisées pour pouvoir créer des mécanismes. Et Michel Faure s'emploie à avoir une meilleure articulation et surtout à faire qu'au niveau du Conseil de l'Europe, la question des défenseurs de l'environnement, qui sont parmi les défenseurs ceux qui sont qui paient le plus lourd tribut en termes d'atteinte, d'attaque et de menace, soit prioritaire, soit pris en compte comme une politique pluriannuelle qui demande l'engagement de tous les mécanismes qui peuvent, d'une façon ou d'une autre, par la voie diplomatique, comme en rendant public un certain nombre de choses, agir pour mieux les protéger. Face à cela, il y a encore beaucoup de choses à faire, notamment au niveau de l'Union européenne pour les défenseurs de l'Union, et puis aussi dans tous ces espaces, garantir une participation effective à la prise de décision, que les défenseurs soient à la table et qu'ils ne soient pas seulement les lobbies, les États, les multinationales, et qu'ils fassent part en fait de ce jeu-là qui est très important et qui est fondamental dans le respect de l'État de droit et dans les politiques à mettre en œuvre pour pouvoir assurer un avenir soutenable à la planète. Dans le prochain épisode, avec Michel Faure, nous aborderons la protection extraterritoriale des défenseurs face aux multinationales.
Cette émission a été préparée et présentée par Michel Faure et Magali Lafourcade. Produite par Amicus Radio. Vous pouvez écouter librement toutes nos émissions sur le site d'Amicus Radio et vous abonner à ce podcast sur les plateformes d'écoute pour ne manquer aucun épisode.